Le journal d'Haïti des Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Il est 8h10 à Port-au-Prince. Retour aujourd'hui sur l'évasion massive de la prison de Croix-des-Bouquets. Fin février en Haïti, une organisation des droits humains dénonce la responsabilité de l'État. La promesse du barbecue. Joe Biden envisage un retour à une vie presque normale aux États-Unis début juillet. Mais pour cela, il appelle les Américains à se faire vacciner contre le Covid. La pandémie qui continue ses ravages au Brésil. Le système de santé menacé. Combien de temps cela peut-il durer? C'est notre dossier du jour. Et puis dans une quinzaine de minutes, Benoît Ferrand, la Guadeloupe qui se prépare au risque de tsunami.
Et pour l'occasion, la commune de Déhé a testé hier ses dispositifs d'évacuation.
A tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous. Deux semaines et le silence toujours des autorités haïtiennes au sujet de la spectaculaire évasion d'une prison de la banlieue de Port-au-Prince. Le 25 février dernier, plus de 400 détenus se sont fait la belle évasion au cours de laquelle 25 personnes aussi ont été tuées, dont le directeur de la prison. Et voilà ce rapport d'enquête que vient de publier Je Clairé, organisation de défense des droits humains. Cinglant, il dénonce une nécessaire complicité des agents pénitentiaires et pointe du doigt la responsabilité de l'État. Amélie Baron est avec la directrice de Je Clairé.
Que s'est-il passé à la prison de Croix-des-Bouquets le 25 février? L'évasion massive pourrait se résumer par ces quelques mots de la militante pour les droits humains, Marie-Hélène Gilles.
Les prisonniers avaient les clés, ils ont ouvert les portes et vidé la prison.
Première cause menant à cet événement exceptionnel, le cruel sous-effectif de personnel. Le 25 février, il n'y avait que 6 policiers et un superviseur pour surveiller les 1535 personnes en détention.
Au niveau du système onusien, on prévoit un agent pour 4 détenus. Pour la prison civile de Croix-des-Bouquets, il faudrait avoir au moins 385 agents pour la sécurité des prisonniers si on tient compte ce que disent les organes internationaux par rapport à la question de la surveillance des prisons.
Aussi peu nombreux face à un tel nombre de détenus, plus du double de la capacité maximale de la prison, les agents pénitentiaires n'ont rien fait face à l'émeute qui a explosé.
Non, il n'y a pas eu de résistance. Le numéro 2 de la prison était sur la cour de la prison avec des clés. Il a dit avoir été attaqué par les prisonniers qui étaient sur la cour de récréation et qui prenaient leur bain ce jour-là. Il a jeté son trousseau clé par terre parce qu'il était attaqué par les prisonniers. Et de là, un prisonnier du nom de Tirat a eu un M4 entre ses mains et il a libéré Anel Joseph qui, lui, en sortant de la prison, a exécuté 2 détenus qu'il avait des démêlés au préalable avec lui. Et Tirat, lui aussi, en sortant de la prison, a exécuté le directeur de la prison civile de la Croix-des-Bouquets.
Le chef de gang Arnel Joseph a été tué par la police au lendemain de cette évasion, mais à date, plus de 2 semaines après les faits, on ne sait toujours pas précisément combien de détenus se sont évadés et qui ils sont. Un scandale que dénonce Marie-Hélène Gilles.
Il faudrait identifier les prisonniers qui sont évadés dans la nature. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'avis de recherche et contre ces gens, ils circulent, ils font tout ce qu'ils veulent. Jusqu'à maintenant, l'équipe du 25 février est en fonction. Ils travaillent dans la même prison qui a été vidée le 25 février, c'est-à-dire que les agents qui étaient de garde le 25 sont encore là dans le système sans enquête.
Pas de remplacement ou mutation temporaire du personnel alors même que la Fondation Je Clairé révèle que cette évasion n'était pas le coup du hasard, mais avait été préméditée avec la complicité de surveillants de la prison.
La radiocommunication de la prison était tombée en panne. C'est après le 25 février, ils ont constaté que la radio n'était pas tombée en panne. C'est une pièce qu'on avait enlevée. Et à entendre des agents, ils disent que les prisonniers étaient munis de pistolets et avec des fusils également. Et Anel Joseph, quand on a rencontré un des prisonniers qui avait partagé une moto avec Anel Joseph pour s'échapper de la prison, il nous a confié qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la prison et ces hommes-là étaient venus de l'extérieur. Ces articles-là, hommes, fusils, munitions, ils sont entrés dans la prison avec la complicité des agents de l'administration pénitentiaire.
Tout en publiant ce rapport, les activistes haïtiens ne se font pas d'illusions et n'attendent rien des enquêtes annoncées par les autorités. Celle lancée après l'évasion massive en 2014 de cette même prison de Croix-des-Bouquets n'a toujours pas abouti. À l'époque, plus de 380 détenus s'étaient évadés. On ignore toujours combien ont été rattrapés par la police. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
La question de l'insécurité à laquelle s'ajoute celle du blocage politique en Haïti. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Vous nous accompagnez aujourd'hui pour la presse et côté haïtien, le Nouvelliste titre ce vendredi sur un coup de théâtre au sein du gouvernement.
Absolument, d'après les informations recueillies par le quotidien haïtien, le Premier ministre Joseph Jout aurait, selon certains, présenté sa lettre de démission, selon d'autres, menacé de démissionner. La raison pour ces micmacs au sommet de l'État, comme les qualifie notre confrère Franz Duval dans son éditorial du jour, une affaire de vitres teintées de véhicules. Pour lutter contre l'insécurité, le Premier ministre a ordonné leur interdiction sans passer par une disposition légale. Le palais présidentiel et ses alliés s'y opposent. La présence de Joseph Jout est-elle comptée à la tête du gouvernement ? La présidence est-elle en train de se surestimer ses forces si elle croit qu'elle peut remplacer le Premier ministre en un tour de main ? S'interroge le Nouvelliste avant de conclure. L'État Moïse pose des mines sous les pieds de ses piliers.
8h16 à Port-au-Prince, comme à Washington, des vaccins pour tous les Américains. D'ici fin mai, Joe Biden en fait la promesse. À l'occasion de son 50e jour à la Maison-Blanche, le président américain hier faisait sa première adresse solennelle à la nation. Une allocution centrée sur la pandémie de Covid. Joe Biden évoque une gigantesque campagne pour dépasser les 2 millions de vaccinations par jour. Mais il prévient... J'ai besoin de vous.
Je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je ne renoncerai pas tant que nous n'aurons pas battu ce virus. Mais j'ai besoin de vous, le peuple américain. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que chaque Américain accomplisse sa part. J'ai besoin que vous vous fassiez vacciner quand cela sera votre tour et que vous pourrez en trouver l'occasion. Et j'ai besoin que vous aidiez votre famille, vos amis, vos voisins à se faire vacciner aussi. Parce que si nous faisons cela, si chacun s'y met, si nous faisons cela ensemble, alors... Le 4 juillet prochain, il y a de bonnes chances que vous, votre famille et vos amis ayez la possibilité de vous réunir autour d'un barbecue pour célébrer la fête de l'indépendance.
La promesse du barbecue, Stéphanie, les journaux progressistes aux États-Unis saluent un immense discours.
Oui, son discours a pu être rempli de fanfaronnades, écrit ce matin le Washington Post, de fanfaronnades par exemple sur l'adoption du plan de sauvetage, sur le fait que chaque Américain pourrait se faire vacciner d'ici le 1er mai, sur la promesse que si tout va bien, il sera peut-être possible de se réunir en famille et entre amis le 4 juillet et de célébrer une liberté durement gagnée. Mais le président n'a pas fanfaronné, écrit le Washington Post encore, il n'a pas non plus brandi le document pour que tout le monde puisse voir sa signature sous la loi de plan de relance comme l'aurait fait son prédécesseur. Non, renchérit de son côté le New York Times, Joe Biden est un président qui transforme en profondeur la politique fédérale américaine. Il avance sur un agenda progressiste, mais il le fait si calmement que cela suscite des bâillements, là où un président Bernie Sanders, par exemple, susciterait des hurlements, estime l'éditorialiste. Enfin, en la personne de Joe Biden, nous avons un président qui se soucie des autres, résume le quotidien USA Today. Avant de conclure, et ça, c'est un nouveau départ pour l'Amérique.
Un président qui se soucie des autres, c'est à peu près tout l'inverse. Au Brésil, Stéphanie, vous restez avec nous, mais c'est Arim Lipold qui nous a rejoint. Bonjour Arim.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Le Brésil et ses tristes records battus ces derniers jours. Plus de 2200 morts enregistrés hier encore en 24 heures. Le pays a dépassé cette barre symbolique des 2000 victimes pour la première fois cette semaine, alors que la vaccination avance très doucement et que le président Bolsonaro n'hésite pas à se moquer des victimes. Arim, le Brésil est au bord du gouffre, son système sanitaire risque de s'effondrer. Concrètement, combien de temps le pays peut-il encore tenir ?
Bien, c'est difficile, voire impossible à dire. Tous les voyants sont au rouge. À Sao Paulo, la région la plus touchée du pays, les hôpitaux ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients, nous explique l'infirmière Monica Calazans.
Presque 100% des lits sont occupés, non seulement dans l'hôpital où je travaille, mais dans tous les autres hôpitaux de São Paulo. Tous sont saturés. Il est difficile d'obtenir une place dans une unité de soins intensifs. C'est la conséquence de l'augmentation des cas de contamination. C'est une situation dont nous sommes tous au courant et que nous subissons quotidiennement.
Et cette question, donc, comment le Brésil en est-il arrivé là?
Eh bien, pour le physicien Roberto Krenkel, membre de l'Observatoire du Covid-19 au Brésil, deux choses peuvent expliquer pourquoi la pandémie se répand à ce point dans le pays. Le facteur épidémiologique, je vais y arriver, avec le variant qui accélère la contamination, et le facteur politique, c'est-à-dire le comportement du gouvernement.
Le gouvernement fédéral brésilien a une responsabilité très, très grande. D'abord, il y a le manque de coordination, mais aussi il y a le négationnisme. Le président même dit des choses qu'on ne peut pas imaginer, c'est-à-dire il est contre les masques, il est contre toutes les mesures de lockdown ou même de précautions. Le ministère de la Santé est dirigé par un général qui n'a aucune formation et paraît complètement perdu au milieu de cette situation.
Et les sympathisants de Jair Bolsonaro, on répète aussi un discours anti-geste barrière et anti-vaccin.
Oui, ils attaquent ceux qui défendent la vaccination, comme l'infirmière Monica Calazans, qui était la première brésilienne, Michael, à être vaccinée en janvier dernier.
Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Et comme j'ai été la première à avoir reçu le vaccin, ils s'en prennent à moi. Mais franchement, je ne fais pas du tout attention à ces réactions. Celle qui a eu le dernier mot, finalement, c'est la science. C'est elle qui a gagné.
Mais ça avance doucement. À peine 4% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, Arima.
Oui, exactement. Et selon Roberto Krenkel, eh bien, c'est trop peu pour freiner la progression de la pandémie au Brésil.
C'est trop tard. Parce que, bon, d'abord, on n'a pas de vaccin suffisant. Le Brésil a un réseau de centres de vaccination bien établi, ça marche. C'est une tradition brésilienne et tout ça. Mais, disons, le gouvernement fédéral n'a pas acheté suffisamment de vaccins. Et donc, voilà, la vaccination est importante, mais à ce moment où nous sommes dans une crise, on ne peut pas, disons, éviter la crise avec la vaccination, parce que la vaccination, ça prend du temps et les effets des vaccinations vont prendre des mois. Ce n'est pas une solution, la vaccination.
Dans une lettre ouverte publiée avec ses collègues de l'Observatoire du Covid-19 au Brésil, Roberto Krenkel demande un confinement strict dans les régions les plus touchées. Le gouverneur de São Paulo semble l'avoir entendu, partiellement en tout cas. Il a décrété un couvre-feu et suspendu les matchs de foot, en plus de la fermeture des commerces non essentiels.
Brésil et Covid, un pays au bord du gouffre, dossier signé Arim Lipold. Merci.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et on vous retrouve, Stéphanie Schuller. Vous nous emmenez à présent au Pérou, où l'étau se resserre autour de Keiko Fujimori, la chef du parti de l'opposition.
Oui, tout à fait. Le procureur général a requis 30 ans et 10 mois de prison contre la fille de l'ancien dictateur péruvien Alberto Fujimori, titre le quotidien El Comercio ce matin. Keiko est accusée d'avoir financé sa campagne électorale de 2011 avec plus $1 million versés par le géant brésilien de la construction Odebrecht. Après plus de 2 ans d'enquête, le procureur poursuivra la chef du parti conservateur et 41 autres personnes pour les délits présumés de crimes organisés, blanchiment d'argent, entrave à la justice et fausses déclarations, détaille le journal La Repubblica. Alors, est-ce le début de la fin de Keiko Fujimori, s'interroge le site péruvien AP Noticias. À 46 ans, elle est en tout cas une nouvelle fois candidate à l'élection présidentielle en avril.
On termine, Stéphanie, par cette grave pénurie de diesel qui paralyse les camionneurs au Venezuela. C'est l'ensemble de l'approvisionnement alimentaire du pays qui est ainsi en danger.
Ouais, et c'est l'alerte lancée en cette fin de semaine par le Miami Herald, parti en reportage au Venezuela justement. Le quotidien de Floride avance deux raisons principales pour cette pénurie de diesel. Premièrement, une industrie pétrolière vénézuélienne qui s'effondre, ce qui a pour résultat une production nationale de diesel de plus en plus limitée. Et deuxièmement, les sanctions américaines qui ont fait chuter l'approvisionnement du Venezuela en diesel.
Et donc des conséquences peut-être dramatiques pour la population.
Oui, le président de la Chambre de commerce de Caracas parle d'une véritable crise. Toute la production industrielle du Venezuela et toute la distribution des marchandises dépendent du zèle. Selon une association de transport interrogée par le Miami Herald, les communautés risquent de perdre l'accès non seulement à la nourriture, mais aussi aux médicaments et à l'eau potable. La plupart des camions-citernes qui approvisionnent en eau Les favelas appauvries du pays fonctionnent également au diesel.
Stéphanie Schuller, pour la presse, merci. On va s'arrêter un instant sur ce qui s'est joué ces deux derniers jours devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. L'instance s'est penchée sur l'affaire d'une jeune salvadorienne. Aujourd'hui décédée d'un cancer lors de sa détention, Manuela avait été condamnée en 2008 pour avortement. Or, l'IVG est strictement illégal dans le pays. La famille de Manuela aujourd'hui réclame justice, affirmant qu'elle n'a fait qu'une fausse couche, Romain Lemaresquier.
L'affaire oppose la famille de Manuela à l'État du Salvador et concerne une série de violations présumées des droits de la jeune salvadorienne dans le cadre de la procédure pénale qui aboutit à sa condamnation à 30 ans de prison pour homicide. Manuela avait été dénoncée par le personnel médical pour un avortement qui aurait été en fait provoqué par le cancer dont elle souffrait et dont elle décédera 2 ans plus tard en détention. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a mené des audiences virtuelles pendant 2 jours, mercredi et jeudi, et devrait rendre un arrêt d'ici 6 mois à 1 an, un arrêt qui devra être appliqué par l'État salvadorien, comme l'explique Sara Garcia, porte-parole de l'ONG salvadorienne Rassemblement Citoyen pour la dépénalisation de l'avortement, qui attend des décisions fortes.
Cet arrêt peut entraîner des mesures qui empêcheront que cela ne se reproduise et également permettre à la famille de Manuela d'obtenir des réparations intégrales pour tout ce qu'elle a dû subir. Nous exigeons aussi des décisions en termes de santé, d'éducation, mais également que l'on puisse réhabiliter le nom de Manuela et surtout que l'on sache la vérité.
La famille de Manuela, qui dit avoir reçu des menaces de mort et préfère donc conserver l'anonymat, réclame également la réhabilitation des autres femmes qui sont condamnées ou en cours de jugement pour des affaires liées à des avortements. Elles seraient actuellement 20 au Salvador, selon des ONG.
Romain Lemaresquier, il est 9h26 à Pointe-à-Pitre.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Comme chaque année, la Guadeloupe se prépare à faire face à un risque potentiel de tsunami.
Et la commune de Dé, pour l'occasion, a testé hier ses dispositifs d'évacuation à travers l'exercice Carib Wave. Mais le premier adjoint de la commune, Alphonse Guillaume, reconnaît bien volontiers qu'il reste encore beaucoup de travail pour améliorer la procédure. Il est au micro de Marilyn Plaisir.
Le site refuge tsunami qui se trouve en fait à une hauteur, à une altitude de 15 mètres. Et d'après les études qui ont été faites, normalement, nous n'aurons pas de vagues supérieures à 15 mètres. Donc la population doit savoir que dès lors qu'elle sera à ce niveau-là, au niveau des panneaux de site refuge, elle est en sécurité. Alors, malheureusement, la commune ne dispose pas encore de sirènes. Si nous avons à faire face à ce genre de situation, nous savons que nous allons compter sur ce que nous appelons des SAFET, les véhicules qui partiront sillonner tous les quartiers pour pouvoir prévenir les gens, à condition que le phénomène nous en laisse le temps. Avec des haut-parleurs, appeler la population, haut-parleurs, sirènes sur les véhicules, appeler la population, demander à la population d'évacuer les lieux le plus rapidement possible.
Mais là, il y a encore des choses à travailler.
Beaucoup de choses à travailler, puisque nous avons vu aujourd'hui que pour pouvoir mobiliser les services qui travaillent avec nous, ça a mis un petit peu de temps, on va dire que ça a mis beaucoup trop de temps.
Direction la Guyane maintenant avec cette autre opération sur la commune de Rémire-Montjoly pour repérer les lieux naturels dévastés par la déforestation. Reportage Myriam Boiscoulin.
Le bruit des machettes sur les troncs de bananiers installés sur plusieurs hectares.
Le but aujourd'hui, c'est de faire peur quelque part aux agriculteurs ou aux personnes qui cultivent ce type de pratique.
Et les explications du maire de la ville de Rémire-Montjoly sur cette opération.
C'est quoi que vous mangez, monsieur Plénette, là ?
Le mombin.
Impossible de ne pas sentir l'odeur des fruits proposés spontanément par la nature. Mais ce qui inquiète Claude Plénette, ce sont ces fruits et légumes plantés sur plusieurs hectares par la main de l'homme, sur ces terres censées rester vierges.
Ces terres sont classées en zone naturelle. En plus on a un arrêté, c'est ce qu'on appelle un plan de prévention des risques, glissement de terrain, donc nous n'avons même pas le droit ici de couper un arbre.
Maïs, bananier, calou, dachine, manioc, piment, ce sont des centaines d'euros de produits maraîchers qui ont été détruits.
C'est des sauvage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on abat les arbres pour pouvoir en faire du charbon dans un premier temps. Ça rend le sol beaucoup plus fertile.
La pollution humaine, elle aussi, est bien là. Bidons en plastique ou canettes de bière sont laissées à même le sol par ces producteurs clandestins qui se sont volatilisés juste avant l'opération.
Bon après-midi, bon week-end, Mickaël, à lundi.
Merci Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Lundi, attention, chers auditeurs haïtiens, vous changez d'heure ce week-end, passage à l'heure d'hiver. Ça veut dire que la semaine prochaine, à partir de lundi, on se retrouve à 9h10, heure de Port-au-Prince, pour vous qui nous écoutez en Haïti. À lundi.
Ce samedi sur RFI.